Oh là là, je suis rassuré. Oh, j'ai eu peur. Putain, nom de Dieu, ce que j'ai eu peur. Non, parce qu'en fait, en entendant hier l'annonce de l'INSEE, les 639 000 chômeurs à venir en 2009, je me dis, putain, là, comment va réagir la bourse, quoi, hein? Tout de suite, l'angoisse, quoi, hein? Ben, elle n'a pas bougé une oreille. Donc, tout va bien.
Ouais, salut. Je suis en train d'écouter l'émission comment dire là, par internet. C'est chouette. Et bon petit truc du moment, comme c'est le printemps et que je suis jardinier, c'est de repiquer les tomates en écoutant la radio. Les tomates ou les choux, hein, peu importe, ou d'autres herbes exotiques. J'écoute votre émission depuis 4-5 ans et voilà, ça m'a fermement décidé à prendre la clé des champs, même si pour l'instant c'est que la clé du jardin. Donc je baptise mes tomates au nom des lobbies, c'est génial. Voilà, salut, ciao.
Salut. Prochain repère de Perpignan, ce jeudi 28 à 18h30 au Lisboa, Place Rigaud. On reparlera peut-être des banques, de la SNCF, de Julien Coupa, des syndicats et des partis politiques déprimés et déprimants. On parlera sûrement d'actions revendicatives, revendiquées, collégiales, non violentes, informatives, expressives, significatives, courageusement civiques, mais pas trop réprimées. Ciao!
Oui, bonjour. J'ai écouté Marine Le Pen ce matin sur France Inter et à un moment donné, elle a parlé de libre-échangisme au lieu de parler de libre-échange. Waouh, le lapsus!
Mieux vaut tard que jamais, le repère des amis de Briouze dans l'Orne, c'est aujourd'hui à 17 ou 18 heures, au bar tabac Le Brazza, 22 rue du Docteur Petit. Je répète, 17-18 heures tout à l'heure au Brazza, et cherchez le canard enchaîné. C'était Claude. Salut à tous!
Oui, bonjour Daniel, je viens d'écouter ton début d'émission sur les prostituées. En fait, c'est un mot qui me fait un petit peu mal. Il y a une vingtaine d'années, j'étais beaucoup plus jeune, j'ai fréquenté ces petites dames et en fait, dans des moments de solitude et besoin d'affection, je les appelais les petites sœurs de la nuit. Parce qu'en fait, j'irais dans la nuit, un peu comme une âme en peine, mais c'est des filles formidables qui ont un grand courage parce qu'elles tombent parfois sur des sacs fondus. Et grand coup de chapeau à ces petites sœurs de la nuit qui sont toujours là pour les âmes essolées. Voilà, salut.
Oui, salut Daniel, c'est Antoine de Besançon. Écoute, c'était pour dire à Michel que non, elle n'est pas venue pour rien, puisque elle m'a fait. J'étais suspendu à ses lèvres pendant 1 heure, c'était super, très intéressant, quelle classe, quel courage. Merci Michel, tu pourrais être ma grand-mère, d'ailleurs, une de mes deux grand-mères s'appelle comme toi, mais je n'aurais pas honte, puisque tu es vraiment quelqu'un de super. Merci pour cette émission, Daniel, à bientôt.
Daniel, je suis désolée, je suis une fidèle de tes émissions, mais alors là, vraiment, tu exagères. Les prostituées, vraiment, c'est une histoire de mecs, et seulement de mecs pour des pauvres filles qui sont vendues, qui disent évidemment, elles peuvent pas dire autre chose, parfois qu'elles sont contentes de l'être, voyons. Hein? Et on sait aussi que c'est le trafic international, le troisième trafic, je crois qu'à peu près à la hauteur du trafic d'armes au monde. Comment peux-tu faire une émission là-dessus? Écoute, je ne suis pas au bout de ma colère, hein? Franchement, je suis en colère.
Salut à tous, c'est Deb. Je voulais juste dire que j'ai adoré l'émission d'aujourd'hui et j'ai même été émue et c'est souvent en écoutant cette émission que je me dis qu'il y a des gens libres sur Terre et ça me met trop la patate. Michel, ma belle, tu m'as fait penser à cette belle parole. Les petites filles obéissantes vont au paradis et les autres vont où elles veulent.
On n'a pas du tout fait, chère Arlette, l'éloge de la prostitution dans cette émission. On a simplement écouté le récit de la vie de Michel. Un point, c'est tout, et c'était une vie passionnante, bien racontée, avec sincérité, avec humour, avec pudeur, aussi, et voilà tout. Aujourd'hui, on prend la route. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas parti comme ça pour les grands espaces, et on est tout content de retrouver le plaisir de voyager. Pas n'importe où, bien sûr, on va en Bolivie, Bolivie, où vous le savez, depuis 2005, eh bien, il se passe de drôles de choses dans ce pays. C'est pas le seul en Amérique latine, mais ce pays vit une révolution. Ah, la révolution. Alors, vu d'ici, ceux qui sont enclins à s'enflammer pour tout ce qui se passe en Amérique latine disent c'est formidable. C'est ce qu'on a voulu aller voir de plus près et vous rapporter des impressions, des rencontres, des analyses, des rigolades aussi, et puis ce plaisir infini de voyager dans ce pays qui est effectivement à la fois en rupture, mais qui n'est pas étranger au reste du monde, qui est pris dans son environnement, c'est-à-dire l'Amérique latine, et plus généralement, qui est présent sur cette planète. Les ruptures, les réussites, les coups tordus et les réactions extrêmement dures des oligarques et de ceux qui continuent de ne pas vouloir évidemment partager. Vous savez qu'il y a une menace de sécession, de rupture réelle, physique, à l'intérieur de la Bolivie. Alors ce voyage va nous emmener de Santa Cruz, où nous allons atterrir aujourd'hui, et puis ce sera Sucre, et puis Potosi, mine de Potosi, et puis La Paz, et puis El Alto. Bref, un parcours à travers une révolution en dents de scie. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, c'est Claude de la région de Rouen. Donc je suis allé hier au CHU, donc hôpital public, et à l'accueil, ce n'est pas marqué accueil des patients, mais accueil de la clientèle, avec un parking, bien sûr, payant Vinci. Allez, au revoir.
Bonjour, Thibaut de Lyon, je vous propose à toutes les personnes donc intéressées par l'organisation du Café Repère de Lyon de se retrouver au bistrot le vendredi 29 mai à 18h30. Après l'ouverture de cette réunion, je vous laisserai voir ensemble quels sont vos amphis et la manière dont vous souhaitez structurer vos prochaines rencontres. Au plaisir de vous accueillir donc au café au 80 rue Montesquieu, dans le 7e à Lyon. Pour plus d'informations, vous pouvez aller visiter le site internet du bistrot www.chezthibaut-cafedesculture.fr. Merci, bonne fin de journée.
Salut Daniel, c'est Denis et Serge, et on vient de manger, et on est en train de boire le café, et on parlait de ton émission d'aujourd'hui, et on a entendu un mec qui disait « Mais où est passé Laurence Parisot ?»
Et en fin de compte, on se rend bien compte qu'on se demande bien où il est passé.
Ben c'est vrai ça.
Alors si tu as une info là, il faut vite nous la filer.
Ah ouais, sérieux Daniel, faut que tu nous la donnes. On s'inquiète.
Demain, jeudi 28 mai, le centre de l'Europe sera au centre du Var, au cœur de Brignoles, à l'Oasis Café. La PAC, le TCE, le pacte de stabilité, le conseil, la commission, les lobbies, ça vous intéresse ? Que vous soyez militant ou simple citoyen, venez écouter et participer au débat du Café Repère à partir de 20h à l'Oasis Café, parking des Augustins à Brignoles.
Politisez vos inquiétudes et vous inquiéterez les politiciens. Bye bye.
Bonjour, ceci est un message pour les AMG de Dordogne. Le deuxième repère du Bergeracois, délocalisé pour l'été à la guinguette du lac de Neufond, c'est près de Vers, se tiendra ce jeudi à 18h. On y parlera des perspectives professionnelles dans l'agriculture biologique. Bah oui, on est à la campagne. C'est bien sûr ouvert à tous et la soirée se poursuit par un repas bio pour ceux qui le souhaitent. Le téléphone de la guinguette, c'est le 05 53 07 87 92. Et on trouve toutes les infos utiles avec un plan et tout sur le blog équilibre-en-3D.overblog.com. Merci, à bientôt.
Oui, là-bas, si j'y suis, bonjour, Gilles de ce beau département nucléarisé de la Manche. Enfin, on sort d'un très bon festival de jazz sous les pommiers à Coutances, donc ça va remonter le moral. Et donc, on tiendra un café repère le vendredi 29 mai à 20h30 au Café Solidaire, 30 Roger Froidmont-Bré à Coutances, sur le thème suivant, quelle Europe pour quel citoyen ? Avec la présence d'un ancien député européen, accessoirement des Verts, Didier Angers, Et donc, ben, on espère que les gens viendront pour nous expliquer à quoi sert l'Europe, notamment. Hein, parce que c'est ça le gros problème. Hein. Il y a un problème pédagogique. À bientôt, sans doute. Bon courage à tous. Bye.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Antoine Chao. Bolivie, une révolution en dents de scie.
Flight number 2, arriving from
Alors vous êtes pour l'autonomie?
Si, pero yo sí acepto la autonomía, pero que, como decir, Santa Cruz, toda la plata que en Santa Cruz se queda en Santa Cruz.
Voilà, moi je suis pour l'autonomie, mais l'autonomie, c'est-à-dire que tout l'argent qui est à Santa Cruz, il reste à Santa Cruz.
Ah, d'accord.
Pero lo que él hace, todo lo que es Santa Cruz, Cochabamba, todo se va al Palacio de Gobierno.
Parce que pour l'instant, tout l'argent qu'on a, nous, ici, à Santa Cruz et à Cochabamba, ça part au palais du gouvernement. Voilà, la
passe. Ah. Mais ici, vous êtes riche, ici.
Oui, on peut dire qu'ici il y a des gens qui ont de l'argent, oui, effectivement.
Mais vous participez à la lutte?
Si, si. Yo defiendo mi pueblo, este es mi pueblo.
Moi je défends mon peuple et ici c'est mon peuple.
Yo no estoy de acuerdo con el presidente.
Moi je suis pas d'accord avec le président.
Alors, mais qu'est-ce que vous faites concrètement alors?
Pues han hecho todo lo que se puede y no. El presidente busca manera, como él está en el poder, busca manera, como...
On a fait tout ce qu'on a pu, mais comme le président il est au pouvoir, il trouve toujours une solution.
Et vous pensez qu'il pourrait y avoir un attentat contre Morales?
Esperamos que sí.
Ben, on espère que oui.
Ah bon? Ah, c'en est à ce point-là, alors?
No, porque él no quiere salirse, él quiere estar como Fidel Castro, quiere...
Oui, parce qu'il ne veut pas partir, lui, il veut faire comme Fidel Castro, lui, il veut rester à vie.
Ah. Vous pensez que des gens préparent un attentat ou pas?
Oui, oui, non, non, on n'est pas loin qu'il lui arrive quelque chose. Parce que c'est pour bientôt.
Maintenant,
il n'ose plus venir, il militarise l'aéroport et puis il reste là-bas quand il veut venir ici. Il ne vient pas en ville.
Bienvenue à Santa Cruz de la Sierra. Bienvenue, mais pour tout dire, on a connu des endroits plus joyeux que Santa Cruz de la Sierra. Si c'est pour la Bolivie avec poncho coloré, flûte de pan, comme dans les pubs pour le café, c'est pas ici. Santa Cruz, c'est plutôt gros bras, blanc, créole et gros 4x4 fumé. C'est plutôt ça que la Pachamama et le petit chapeau melon. La Bolivie, c'est des hauts et des bas, du haut et du bas. Et contrairement à l'ordinaire, les pauvres sont plutôt en haut et les riches sont plutôt en bas. Et nous, on commence par le bas. Les pauvres, c'est les Andes, c'est l'Altiplano, c'est les Indiens. Et les riches, eh bien, c'est l'Est, c'est l'Orient, comme on dit. Riche de quoi? Ben, riche de pétrole, par exemple. Riche de gaz, riche de toutes sortes de choses. Santa Cruz, c'est la capitale économique, 1 600 000 habitants, sur 10 millions que compte cette Bolivie deux fois plus grande que la France. Et Santa Cruz, c'est la capitale de la puissance, la capitale économique, et c'est aussi évidemment des images qui vous viennent tout de suite, tout naturellement, de d'ombres fantomatiques, pas forcément sympathiques, comme celle de Klaus Barbie, qui vécut ici et qui joua un rôle important dans cette ville de Santa Cruz. Lui et toute une communauté de ses semblables, d'autres venant de Croatie, d'ex Oustachie, l'équivalent nazi de, en version croate. Bref, des soldats de fortune, des gens un peu échoués, mais pas seulement, bien évidemment, mais en tout cas qui ont tous ceci en commun, je parle des oligarques, d'être accrochés et de vouloir conserver, en bon conservateur, leurs avantages, leurs privilèges, leurs entreprises, leurs terres, contre un président élu en décembre 2005 qui a l'outrecuidance de vouloir partager un peu les choses différemment. 65% de la population bolivienne vit au-dessous du seuil de pauvreté et dans l'ordre de la pauvreté dans le continent américain, si on prend les Amériques, eh bien la Bolivie vient juste derrière Haïti. Or, j'ai cité le pétrole, j'ai cité le gaz, j'ai cité des ressources importantes, très importantes, et puis il y aura probablement bientôt le lithium, indispensable à la construction de nos voitures électriques, donc une nouvelle ressource. La Bolivie vit effectivement depuis longtemps de ses ressources, de sorte de rente de situation qui constitue pas toujours le bonheur de tous. C'est souvent une calamité, même économique. Et puis, la Bolivie a ceci de particulier, c'est qu'on n'y a pas entièrement détruit les Indiens. On en avait besoin, notamment, on le verra, dans les mines de Potosi, et ça a fait qu'on les a pas tous trucidés. On en a gardé, et finalement, eh bien, ils sont plus nombreux que les Blancs et que les Créoles. Et c'est un des thèmes qui va nous accompagner tout au cours de ce voyage, celui de cette la renaissance indigène. La renaissance indigène et la volonté de rompre de la part de ce gouvernement et de la part d'une partie de la population avec la tradition coloniale ou néo-coloniale. C'est une des deux ruptures sur laquelle repose ce nouveau gouvernement, qui est là, je le rappelle encore une fois, depuis décembre 2005, la rupture avec le néolibéralisme et la rupture avec cet héritage colonial et la mise en valeur, la mise en droit, on peut dire, de ces indigènes si longtemps offensés et si longtemps humiliés. Là, on commence par ceux qui ne veulent absolument pas entendre parler de ça. Vous avez entendu, le premier chauffeur de taxi sur lequel on tombe avec Antoine nous dit que ce serait très bien qu'un attentat soit perpétré contre le président. Il y a une sorte de guerre civile rampante dans ce pays, depuis bien belle lurette, ce pays en a vu d'autres, mais enfin, c'est la situation actuelle, même si ces temps derniers, les choses s'apaisent ou dorment, d'un œil ou des deux. Voilà pourquoi nous partons pour la Bolivie. Bolivie, une révolution en dents de scie, c'est l'appel si j'y suis, jusqu'à 16h aujourd'hui.
General, no solo se asalta en la calle, la cosa es ahora legal. ¿Cómo te puedo decir? La impunidad siempre no, crímenes constitucionales, escondidos por la ley. No, mira, señor, no es así. Aquí ya no nos callamos, no damos otra mejilla. No, ya señor, no es así. Aquí ya no nos callamos. No damos la otra mejilla. No nos contagiarán. ¿Cómo te puedo decir? Cuando veas estos señores, les digas tú sus verdades.
para que paguen su mal. ¿Cómo te puedo decir a este mi pueblo que escucha,
escucha,
a esta mi tierra querida? Ahora nos van a sentir. ¿Cómo te puedo decir?
Aquí ya no nos callamos, no damos otra mentira, no nos contagiamos.
On arrive dans cette ville de Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra, Bolivie. On va essayer de comprendre ce qui se passe en Bolivie, les mouvements à l'aise, comment ça fonctionne, toutes ces histoires et tout. Ça nous passionne, tous ceux qui s'intéressent, les altermondialistes, tous ceux qui s'intéressent à l'Amérique latine, tous ceux qui sont un petit peu curieux de ce qui se passe dans le monde, hors de leurs préoccupations quotidiennes, s'intéressent forcément à ce qui se passe en Bolivie. Nous, c'est ce qu'on pense. Donc voilà pourquoi on est là. Et on commence par Santa Cruz. Et c'est la ville, évidemment, qui menace de sécession, enfin, qui milite pour son autonomie. Il y a des risques de division à l'intérieur de cette Bolivie, c'est bien connu. Et il y a des tensions contre Morales, il y a des toutes sortes de pressions, de tensions qui se manifestent. Nous, on prend un hôtel dans le centre, bien placé, et nous voilà. Il y a effectivement toutes les chambres qu'on veut. L'hôtel est absolument vide. Il y a une ambiance un peu bizarre, pour tout dire, un peu sépulcrale. Mais ça ne nous frappe pas d'emblée. Les gens font une drôle de tête. On est les deux seuls clients de l'hôtel au troisième étage, chambres 343 et 344. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que quelques jours auparavant, trois semaines auparavant, exactement le 16 avril, dans la nuit du 16 avril 2009, à 4 heures du matin, ici même, et là où nous sommes, puisqu'on est devant les chambres en question, les forces spéciales de la police bolivienne entrent dans ces pioles, entrent dans ces chambres, et il y a des échanges de feu avec des gars qui sont dans les chambres, cinq chambres. Et les gars qui sont dans les chambres, en fait, constituerait une cellule terroriste qui aurait pour but de préparer un attentat contre le président de la République. On n'en sait rien pour l'instant parce que l'enquête est en cours. Toujours est-il qu'il y a-t-il ou non des échanges de feu entre le commando de la police et les gars? On n'en sait rien. En tous les cas, à la fin d'un quart d'heure, une demi-heure de fusillade, de coups de feu, d'explosion, il y aura trois morts et deux gars seront arrêtés. Voilà. Et on a devant nous les chambres. Voilà. On a les vitres brisées, les draps
immaculés de sang.
Immaculés de sang, les écrans de télé avec des bastos dans les murs, dans les écrans, etc. Enfin, voilà, les restes de cette histoire-là. Alors, c'est une histoire qui montre bien ce qui se passe ici.
Ce qui se passe ici, quand même, c'est un drôle. On n'est pas dans le guide du routard, là. Hein. On est à l'hôtel Las Americas. Et c'est quand même assez étonnant. Et ce qui va être étonnant, c'est de voir qu'en quelques heures, jours tout au plus, va se développer à travers cette ville de Santa Cruz de la Sierra, de bouche à oreille, la construction, mais à toute vitesse, d'un mythe, celui de Eduardo Rocha Flores, que tout le monde va se mettre à appeler Rocha. Il a été abattu dans cette chambre, dans l'une de ses chambres d'hôtel, et c'est un personnage hors du commun. Mais vous avez entendu le chauffeur de taxi en arrivant, vous voyez un peu l'ambiance générale de cette ville, et dans ce climat, on voit d'heure en heure gonfler, monter la personnalité héroïque de ce personnage, une véritable rumeur publique.
Derrière ce paravent,
quarto de hora,
ça a duré à peu près un quart d'heure. Alors ça, c'est la chambre 455, c'est la quatrième chambre. Effectivement, il y a une balle qui a traversé la télé. Il y a d'autres impacts, et là, il y a du sang sur le mur. Ici, c'était la chambre donc des gens qui ont été arrêtés, qui sont pas morts pendant l'assaut.
Vous les aviez vus avant?
Ellos eran personas normales, como todo el mundo.
Yo lo veía, ¿no? Bien, una buena persona. A Rosa, ¿no?
Je pense que Rosa, c'était quelqu'un de bien. Ils étaient normaux, c'était des gens normaux.
Ils subieron a comer un sándwich al restaurante y se los atendió.
Ils sont montés au restaurant manger. On les a servis comme tous les clients, quoi.
Et où est-ce qu'il est enterré alors maintenant, Rocha?
En el cementerio general, que fueron unas cinco personas a su velorio, no fueron más.
Il est au cimetière général, mais il y a eu que cinq personnes à son enterrement.
Ah, et vous croyez qu'il y a des visites sur sa tombe maintenant au cimetière général?
Yo creo que sí, porque ya en los canales ya se está viendo que están yendo sus familiares a decir, bueno, todo lo que ellos conocían, cómo era perdón, Rosa, y...
Donc là, maintenant, il y a des reportages qui passent à la télé où on voit sa famille qui va se recueillir et qui va expliquer comment Rocha était quelqu'un de bien, ce qu'il avait fait dans sa vie.
Et vous avez vu le film sur Rocha, hein, qui s'appelle Chico?
Muy buena,
c'est un bon film.
Sí, la verdad era un héroe porque la...
Oui, en fait, c'était un héros parce qu'il avait fait toutes ces choses-là. Oui.
Bueno, todo lo que dice, lo que sacaron, que había grabado él con... Sí, va a venir a defender a Santa Cruz, ¿no?
Iba oui,
a...
et puis il y avait ce
él quería su tierra, digamos,
cet entretien qui a été rediffusé après sa mort, où en fait lui il voulait défendre sa terre, son pays.
Non, su tierra, Santa Cruz.
Et sa terre, c'est Santa Cruz.
L'Estado central. Sí.
Contre l'État central. Alors on va aller devant sa chambre. Hein. 458.
Et la plus saccagée, celle-là, c'est la plus saccagée, c'est là où il y a le plus d'acharnement. Et ça, c'est la chambre d'un gars qui s'appelle Rocha. Tout le monde maintenant l'appelle Rocha. On a vu en quelques jours, en quelques heures, ce type devenir un héros national, en tous les cas, un héros local.
Régional.
Régional, voilà, on va dire un héros régional. En fait, il s'appelle Eduardo Rocha Flores, et c'est un drôle de type, qui est un, bon, on va dire un type, est-ce que c'est vraiment un chien de guerre? Est-ce que c'est un mercenaire? Est-ce que c'est un ultra? En tout cas, c'est un drôle d'oiseau et qui a une drôle d'histoire. Si drôle son histoire qu'un film a été fait sur sa vie et qui s'appelle Chico.
Il se met lui-même en scène quand même, comme un héros de la guerre des Balkans.
Comme un héros de la guerre des Balkans, c'est un film hongrois qui avait été présenté par Arte, notamment, et qui présente un type en couleur qui a fait des tas de choses héroïques, limites, qui...
Alors, issu d'une famille très cultivée, progressiste en Amérique latine, proche d'Allende...
Proche d'Allende, son père était un peintre, copain de Günther Holzmann, que les lecteurs du monde diplomatique connaissent bien, puisque Santa Cruz est la ville de Günther Holzmann. Il s'installe au Chili, proche d'Allende. Il part quand Pinochet arrive au pouvoir. Enfin, c'est un type avec un engagement, etc. Donc, le fiston, c'est lui qui nous intéresse. Son fils, donc, ce Rocha, grandit en Hongrie, fait des études militaire, des études littéraires. Il se retrouve correspondant en Croatie en 1992. Et là, il s'engage dans l'armée croate et là, il va participer, il va être engagé dans la guerre des Balkans, dans l'armée croate. Il va d'abord être officier, puis commandant, blessé à plusieurs reprises. Il va être présent à Vukovar. Et c'est un drôle d'oiseau qui fait partie de l'Opus Dei, qui se convertit à l'islam. Enfin, c'est un mec des extrêmes qui écrit de la poésie, qui fait de la chanson, etc. Enfin, et donc, voilà, il est abattu dans cette chambre. Voilà, c'est l'endroit où il est mort. Ce qu'on va trouver il y a trois jours, et ça, c'est troublant quand même, on trouve une vidéo dans laquelle il dit, oui, je pars pour la Bolivie maternatale, car je vais former des milices
d'autodéfense.
Des milices d'autodéfense. Alors, on ne dit pas paramilitaire, on ne dit pas escadron de la mort, mais ça y ressemble beaucoup. Pourquoi a-t-il fait cette confidence? Comment cette vidéo est-elle arrivée? C'est quand même très, très mystérieux. Ça fait vraiment
polar, quoi. C'est une histoire vraiment de quoi remplir des romans d'espionnage. Mais toujours est-il que le document existe bel et bien. Mais ce qui se passe, c'est que ce type, en quelques jours, en quelques heures, est devenu un héros national.
Un héros régional, je me permets de,
il faut
de rappeler.
Absolument,
quoi.
Absolument régional.
Il nous a laissé rentrer, mais ils peuvent se faire virer si on apprend, si aucune radio, aucune télé n'est encore rentrée dans ces chambres d'hôtel, donc il ne faut pas qu'on assiste.
Me maquen de hacer pasó esto.
Te ha vuelto loco. Estás luchando contra los fascistas.
No son fascistas.
Tú no sabes que los
son fascistas. Son macedones.
Papá, tú lo estás.
Carajo, lo
¿te das cuenta? Y si ellos son fascistas, yo también lo soy.
Sí, c'est le. Donc c'est le cimetière général de Santa Cruz.
Voilà, voilà. Eduardo.
Eduardo Rochas Flores, 16-04-2009, 16 avril 2009. QEPD.
Que en paz descanse.
Qu'il repose en paix.
No tiene placa, ha sido escrito por un.
Il n'y a pas de plaque.
Con un dedo.
Ça a été presque écrit au doigt, avec un doigt dans le ciment frais.
Que nadie sepa que está ahí.
Ça a été fait très discrètement, quoi.
Eh ben, dis donc, mais il y a juste une toute petite fleur séchée au bord, là. Mais, et puis, il n'y a pas foule autour, hein. Et pourtant, c'est dimanche. Et pourtant, il est en train de devenir le héros national régional. Le film qui a été tourné sur lui, avec lui, est en train de circuler partout. Et il a juste droit à rien du tout comme hommage en ce dimanche au cimetière général de Santa Cruz de la Sierra. Ah, il nous a intrigué quand même, ce Rocha. Et on s'est dit, ayant rencontré Edson, que vous venez d'entendre, et sa sœur Noëlla, deux jeunes de Santa Cruz, lui, journaliste, elle, étudiante, qui présente la rareté, ces deux jeunes gens, d'être opposés aux oligarques locaux. Et c'est-à-dire qu'ils sont plutôt dans la sensibilité moraleste qui est minoritaire dans le coin. Et on s'est dit avec eux, mais pour en savoir plus sur Rocha, eh bien allons au cimetière, puisqu'il y est enterré, ce serait bien le diable, s'il a autant d'admirateurs que la rumeur nous le rapporte, eh bien on va trouver des admirateurs sur sa tombe. Eh bien pas du tout, on a trouvé la tombe, on a fini par trouver la tombe, sommaire, et puis personne à côté, personne autour de cette tombe, pour l'instant. Et effectivement, ce type est quand même très très mystérieux et devient en quelques jours un héros. L'enquête aujourd'hui est en cours, bien évidemment. Il avait bel et bien pour but de venir, et il avait la fameuse vidéo, c'est simplement un témoignage qu'il donne à la télévision hongroise avant son départ, une interview réalisée par le journaliste András Kepes le 8 septembre 2008, dans laquelle interview Rocha confirme qu'il va à Santa Cruz de la Sierra à la demande de personnes qui lui ont demandé de former un groupe d'autodéfense dans la région, et il ajoute qu'il est disposé d'ici quelques mois, dans le cas où la coexistence ne fonctionnerait pas, et en vertu de l'autonomie, à proclamer l'indépendance de Santa Cruz et à créer un nouveau pays. Point. Fin de citation. Pas moins. Ceci peut peut-être expliquer qu'il ait été abattu, ça semble quand même une raison insuffisante après tout, mais il se peut qu'il soit à ce moment-là, au moment où il a été abattu, en train de préparer un coup d'État contre le président bolivien. Pour l'instant, les enquêtes sont en cours et nous sommes au cimetière avec nos deux amis, Edson et Noëlla, qui à travers cette situation nous font un peu mieux comprendre et sentir ce qu'est cette société de Santa Cruz de la Sierra, Bolivie.
Claro, porque hay nomás cierto grado de culpabilidad, ¿no? Entonces, porque si no, creo que habrían demasiadas relaciones, demasiadas implicaciones de él con mucha otra más gente.
A priori, comme il avait beaucoup de relations et beaucoup de liens avec beaucoup de personnes ici, beaucoup des élites dirigeantes.
Por eso, fíjate, la inscripción es muy interesante porque casi todas las lápidas, casi todos los otros nichos tienen esto, una foto, algo arreglado, mármol.
Donc toutes les autres niches sont très belles, très très joliment arrangées, avec du marbre, avec des fleurs, avec des inscriptions
pero
argentées.
Él, no, él, porque hay mucha más gente involucrada al lado de él, o detrás de él. Hay mucha más gente que está, que tiene
oui,
mucho que ver.
Hay trop de gens ici, régionalement, localement, qui sont très impliqués dans cette histoire.
Alors quand même, là vous êtes étonnants tous les deux, ton frère et toi, parce que, bon, Santa Cruz, c'est les autonomistes, c'est les conservateurs, c'est la droite, c'est les loges. C'est les patrons très organisés, c'est une société très conservatrice, très à droite, etc. Et vous, vous êtes dans l'opposition. Et qu'est-ce que ça fait d'être dans l'opposition ici à Santa Cruz?
Esa cúpula que está en contra del gobierno, ¿ya? La gente común apoya.
Pero ici, le peuple, effectivement, il y a une large base qui appuie le gouvernement autonome, donc qui s'oppose au gouvernement central.
Pero es gente que no está informada y
que
no conoce.
¿Ah?
Entonces ellos, por ejemplo, dicen odiar al presidente
Evo
Morales. Entonces el problema no es algo que el presidente haga mal o que dañe a la región. Simplemente lo odian porque así ha lavado.
No, c'est juste de la haine.
Pero para nosotros, para estar en contra de ese movimiento acá, es bien difícil. Primero,
por nous qui sommes sí. contre les pouvoirs locaux, contre cette opposition au gouvernement, au MAS.
Es difícil porque muchas veces tenés que reservarte tu opinión, no hablar.
C'est difficile parce qu'on doit souvent être très discret et ne pas dire ce qui nous
En la universidad, por ejemplo, con tus docentes, con tu profesor, no puedes hablar.
À l'université, par exemple, avec nos professeurs,
en los hospitales tampoco.
Et dans les hôpitaux non plus.
Tampoco. Sí, yo estudio medicina y paso mucho tiempo en los hospitales.
Je passe beaucoup de temps dans les hôpitaux.
¿De dónde se nos saca? Y se nos lleva a los cabildos, ¿no? A todo. Ahí se nos sacaba de los hospitales y de la universidad.
Y c'est les profs eux-mêmes qui nous emmenaient depuis les universités et depuis les hôpitaux dans les lieux de réunion pour faire les manifestations contre le gouvernement central.
On nous dit qu'il existe des loges, une sorte d'organisation secrète, où se retrouvent des gens qui ont des intérêts communs et qui sont presque toujours des intérêts économiques ou politiques, mais qui le font en secret et qui sont autant de groupes d'intérêts reliés entre eux qui permettent de conserver cette société et de la maintenir telle qu'elle est.
En realidad no están instituidas, no tienen una casa o un lugar, pero existen.
Et bien sûr qu'elles existent, mais elles ne sont pas institutionnalisées. Elles n'ont pas de locaux.
Entonces vos no podés entrar a cualquier institución aquí si no tienes una recomendación.
Donc tout est contrôlé comme ça, il y a des traitements de faveur pour les familles connues, reconnues, qui font partie des mêmes réseaux.
Apellido.
Avec des noms de famille, il faut avoir un nom ici.
Baca, Antelo, Landiva, Tejerina, tienes que tener un apellido de renombre, no
voilà,
puede ser cualquiera.
Il y a des noms qui permettent d'accéder à tous ces postes de pouvoir, c'est Tejerina, c'est Álvarez.
Monastério.
Voilà, et c'est pour ça qu'on est au cimetière, parce que le cimetière raconte ça. La familia Monasterio Niemé, on est devant, c'est une copie de temple grec, un peu grotesque, peu importe, mais quand même, on a voulu faire un temple grec avec des colonnes et puis une porte impressionnante avec des choses dorées, un escalier de marbre, enfin, etc. On voit bien l'importance de la famille, hein, et ces familles, effectivement. Hein. Curieux, en effet, très vite à Santa Cruz, on nous a parlé de ces loges, de ces logias, de ces groupes secrets dans lesquels ces familles se retrouveraient, initiées que les uns et les autres sont, et ces loges tiendraient la société de Santa Cruz et plus largement de toute cette région de la Media Luna qui constitue à peu près la moitié de la surface de la Bolivie et bien plus que la moitié de la puissance économique de la Bolivie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de loge? Ça fait un peu complot, ça fait réseau, ça fait théorie du complot, avec deux grands groupes de loges qui seraient Toborochi d'un côté et Caballeros del Oriente de l'autre. C'est quand même assez bizarre, mais il semble bel et bien que ce soit ainsi que soit construite cette étonnante société de Santa Cruz. Le témoignage de Jorge Paz Garreta, qui est président de l'association des victimes de la dictature. Rappelons que la Bolivie a vécu sous un empire, l'empire d'une dictature pendant de très longues années, près de 16 ans, je crois, dictature qui s'est prolongée ensuite par l'expérience, entre guillemets, néolibérale. Et les Boliviens font l'équivalent. Pour eux, c'est la même chose qui a continué par d'autres moyens. Le point de vue sur ces loges de Jorge Paz Garreta.
Pero además hay una situación, la creación de grupos secretos de poder.
Mais en même temps, il y a autre chose, c'est la création de cercles secrets de pouvoir.
Sí, logias.
Des loges.
Secretas.
Secrètes.
Ya, que vienen a ser como los operadores políticos.
Ils deviennent les opérateurs politiques.
Con aspiraciones de enriquecimiento.
Avec aspiration que están, d'enrichissement.
Que están al servicio de la burguesía poderosa que se desarrolló durante los últimos 50 años.
Qui s'est développé ces 50 dernières années ici.
Así, estas logias son las que han diseñado todo este periodo que vive Santa Cruz.
Et c'est ces loges qui ont structuré tout le maillage politique qui domine aujourd'hui à Santa Cruz.
Estos grupos son elitistas.
Ces groupes sont élitistes.
Selectifs. Ya. Son grupos machistas, son puros hombres, ya, excluyen a las mujeres.
Ya,
una logia se llama Logia Toborochi y la otra logia se llama y la otra Caballero del Oriente.
Y los otros son los Caballeros del Oriente, los Chevaliers del Oriente.
Exactamente. El escenario de violencia que se ha vivido en nuestro país el año pasado.
El escenario de violencia que ha atravesado el país el año pasado.
Sencillamente porque este proceso de cambio afecta sus intereses, sus privilegios y sus proyecciones de enriquecimiento.
Parce que le processus de transformation mis en place par le gouvernement de Evo Morales met en danger leurs intérêts privés et leur avenir.
Tu peux nous donner des noms de ces grandes fortunes?
La cabeza de los que han sido miembros del comité cívico.
C'est tous ceux qui ont dirigé le comité civique.
Branko Marinković.
Branko Marinković.
Es un burgués que tiene muchísima plata, entonces sus intereses, el proyecto, ¿no? Además pertenece a un grupo que es muy cuestionado aquí, que es el grupo de los croatas.
En plus, lui, non. Il fait partie du groupe des Croates ici, qui est très controversé.
Pero también está el prefecto, en otra posición que no es la misma que Branko Marinković, pero también es de los representantes.
Il y a une tendance, c'est celle de Ruben Costas.
De estos grupos de poder.
Tu es en train de décrire une mafia.
Exactamente. Así funciona. Son organizaciones que no deben existir y a las cuales estamos combatiendo.
Donc, c'est des organisations qu'on combat et qui ne devraient pas exister.
Bolivia, patria querida,
Bolivie, patrie tant aimée, ils veulent te démembrer, les éternels oligarques, fils du dollar et du cacique. Sachez donc, vous les trois mercenaires, que votre histoire s'achève là, puisque ni Santa Cruz, ni Tarija, ni Pando, ni Beni ne vous sont solidaires. Nous ne voulons plus de patrons, ni de propriétaires de la nation. On en finira avec eux, avec le vil mensonge et avec la corruption. La demi-lune, arrêtons de nous diminuer. La Bolivie est une pleine lune avec ses 9 étoiles départementales d'or et de liberté.
Oh. La Bolivie est une pleine lune avec ses 9 étoiles d'or et de liberté.
Je sais bien que c'est une tradition, je sais bien que c'est banal, mais moi je m'y habitue pas. Si je cherche une image de la domination, du dominant, du dominé, de l'exploiteur et de l'exploité, je pense tout de suite à cette image qu'on a sous les yeux là, c'est celle du gars qui se fait cirer les godasses, qui se fait cirer les pompes. Là on est à Santa Cruz et il y a des cireurs de souliers au coin de cette rue, il y en a d'ailleurs un petit peu partout dans la ville. Et c'est vraiment celui qui se fait cirer les chaussures. D'abord, il est toujours un peu en hauteur, il est bien habillé, il a une attitude assez, assez désinvolte, un petit point d'arrogance, enfin tous les cas de suffisance. Et le gars qui cire les chaussures est vraiment la figure même de la servilité. Il n'y a pas une figure, une posture plus servile que celle du cireur de chaussures. Et il y met du zèle. Il lui met des élastiques à cirer, à finir avec les doigts, à souffler de la vapeur pour que ce soit plus brillant, et à caresser les pieds. Alors là, on sait bien qu'il y a un érotisme du pied. Hein, c'est bien connu. Mais là, je crois qu'à travers le cuir de la chaussure, le maître, le dominant, sent quelque chose qui est de la même nature que ce que la sœur ou la fille ou la femme du cireur de souliers lui fera ce soir dans le bordel où il a ses habitudes. C'est de la même nature, quoi. C'est de la même nature. Et c'est la figure de la domination. Surtout dans cette ville, quoi, évidemment. C'est vraiment une emblématique.
Alors là, on est au coin de la cathédrale, donc la cathédrale, la fameuse cathédrale de Santa Cruz, écrasante comme ça de grandeur, etc. Et on nous a raconté qu'un artiste local a peint le cardinal Terrazas, qui est un cardinal qui est très proche des cercles de pouvoir autonomistes, des entrepreneurs locaux, de l'oligarchie locale, qui a peint le cardinal en train de cirer les pompes d'un des patrons de l'industrie locale.
Et alors je vois que ta culture religieuse, tu fais des progrès, indéniablement. Sauf que c'est pas, il ne lui cire pas les pompes, il lui lave les pieds. Et il y a une scène dans les évangiles où Jésus lave les pieds de je ne sais qui par humiliation, par humilité, par reconnaissance. Alors le lavement des pieds, c'est pas très loin du cireur de godasses. Voilà, c'est la version catholique, religieuse de cette humiliation-là. Sauf que dans les évangiles, elle est vécue comme un hommage, elle a une sorte de deuxième degré. Là, il n'y a pas de deuxième degré.
Alors c'était dans le contexte, dans un contexte particulier, où le cardinal avait pris position pour les grands propriétaires terriens qui étaient accusés par des associations de pratiquer l'esclavage dans leur territoire, dans leur propriété. Et donc, suite à ces dénonciations, le cardinal a pris position et a dit « Dans ce pays, il n'y a pas d'esclavage ».
Alors il faut être juste, c'est pas le cas de toute l'Église. C'est pas le cas de toute l'Église qui, comme partout en Amérique latine, a beaucoup d'importance ici en Bolivie. Il y a une dissidence, notamment chez les jésuites, où on trouve des théologiens de la libération qui s'opposent à ce genre de choses.
Alerta Santa Cruz!
Ouais, des théologiens de la libération, on va rencontrer au cours de ce voyage. On évoquait les logias, mais c'est pas plus d'une centaine de familles de cette région qui possèdent des millions d'hectares aptes à la production et à la reproduction, c'est le cas de le dire, et qui détient, alors j'allais dire qu'il détient les hydrocarbures, et ben non, parce que le gouvernement Morales depuis 2005 a nationalisé les ressources, les hydrocarbures et le gaz. On va évoquer la fameuse guerre du gaz. Pour l'instant, on est toujours au cimetière général de Santa Cruz avec nos amis Edson et Noela Hurtado, et au milieu de ces tombes prestigieuses, de ces grandes familles. Ben oui, malgré tout, on a beau appartenir à une très grande famille d'oligarques, on finit comme ça.
Ouh, c'est quelque chose. Alors ça, c'est le mausolée de la familia Banzer Prada.
Et l'ex-président général Hugo Banzer Suárez.
L'ex-président de la République. Y dictador.
Y dueño de,
grandes extensiones de territorio en Santa Cruz y en Beni.
Et propriétaire de grands territoires ici à Santa Cruz et dans le
y en Beni.
Et dans le Beni, dans le département du Beni.
Si.
Il est honoré comme un héros national.
Si, se lo honra como un héros.
Tout à fait, il est considéré comme un héros national.
Il fait partie des grands dictateurs d'Amérique latine.
El dictador más cruel que hubo.
Le plus cruel qu'on ait eu ici en Amérique latine.
En segundo lugar después de Pinochet.
Deuxième place après Pinochet.
Pas mal pour un petit pays comme le vôtre.
Si. Aunque ellos estuvieron bastante relacionados con la operación Cóndor y todo eso,
¿no? Il a été assez lié à l'opération Cóndor.
Todos los dictadores de América Latina, incluido él.
Mais lui aussi.
Con el objetivo de perseguir y matar a todo el que se opusiera.
L'idée de poursuivre et d'assassiner tous ceux qui s'opposaient, tous les opposants. Et surtout les jeunes.
Eso fue auspiciado por la CIA y fue.
Donc ça a été organisé, ça a été aidé par la CIA.
No, entonces se perseguía a un opositor boliviano en Chile, en cualquier país.
Poursuivre un opposant bolivien au Chili, par exemple.
Voilà, répression sans frontières.
Sí. Un antecedente es que siempre en Santa Cruz se dice que cuando se pide autonomía o independencia, se dice que ¿por qué siempre el presidente es Colla? ¿Por qué siempre el presidente es de La Paz? Bueno, el presidente cruceño fue el general Hugo.
Donc, un des arguments ici des indépendantistes, des autonomistes, c'est que toujours le président de la Bolivie est un Colla, c'était quelqu'un de l'altiplano, de La Paz. Mais c'est faux parce que justement Banzer est cruceño et il a été président d'abord dictateur et après président élu.
El Escamba.
Camba.
C'est un Camba.
El Colla.
El único presidente Camba fue él.
Donc, mais ça a été le seul président. Camba.
Las grandes familias son pocas.
D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de grandes
familles. La mayoría de la gente no pertenece a esta familia.
La plus grande partie des gens ici n'appartiennent pas à ces familles.
Con los dedos de las manos.
Voilà, on peut les compter sur les doigts d'une main. Les grandes familles ici à Santa Cruz.
Ellos están contrarios a todos los intereses del pueblo.
Parce que ces familles-là s'opposent aux intérêts, mais de la majorité du peuple, de l'intérêt général.
Ganando por debajo del mínimo, vive más del 60% de la población en Santa Cruz.
Il y a 60% de la population ici de Santa Cruz qui vit avec moins que le minimum vital.
C'est ça qui est le plus frappant et le plus violent dans ce pays, mais comme dans d'autres. Enfin, dans celui-là, puisque nous y sommes, il faut rappeler que c'est le 93e pays dans l'ordre des pays les plus pauvres. Que 65% des Boliviens vivent en dessous du seuil de pauvreté selon les chiffres du PNUD, c'est un pays qui vient juste derrière Haïti au niveau de la pauvreté. Or là, on voit un luxe quand même dans ce cimetière devant ces mausolées familiaux.
Porque están las familias, ya, de terratenientes, y
donc
están
les familles de propriétaires.
Y están los grandes empresarios.
Et il y a les grands patrons.
Unidos en lo que se y representados por el comité cívico.
Donc ils sont unis et représentés par ce qu'on appelle le comité civique pro Santa Cruz.
Pro Santa Cruz. Entre ellos están los dueños del azúcar.
Et parmi eux, il y a les patrons du sucre, les propriétaires du sucre.
En sus propiedades, ellos tienen miles de trabajadores en condiciones infrahumanas.
Dans leurs propriétés, ils ont des milliers de travailleurs qui travaillent dans des conditions infrahumaines.
Comida y tierra.
On leur donne la nourriture et l'endroit pour loger.
Pero a cambio de eso, tiene que trabajar toda su familia, incluye su esposa, sus niños.
Et toute la famille doit travailler, la femme, les enfants.
Son niños que no van a la escuela.
Des enfants qui vont pas à l'école.
Que no tienen una cama para dormir, duermen en el piso. Ils n'ont
pas de lit pour dormir, ils dorment.
Y la mayoría son desnutridos, llenos de parásitos.
La plupart souffrent de malnutrition, sí. Des parasites.
Ellos han llegado a los hospitales.
Parce que, moi, je sais, ils sont arrivés dans les hôpitaux dans lesquels je travaille.
Heridos, amputados,
des blessés, des gens blessés, des gens amputés, des gens brûlés.
Y solo ahí se ha podido evidenciar su grado de desnutrición.
C'est comme ça qu'on a constaté la malnutrition et leurs mauvaises conditions de vie.
Los dueños de esas azucareras, los patrones.
Donc les propriétaires, les patrons de ces centrales de sucre.
Representados por el comité cívico.
Qui sont représentés donc par le comité civique.
Se enriquecen muchísimo a costa de sufrimiento y muerte de la misma gente.
Sur le dos et au péril de la vie et de la santé des ouvriers qu'ils exploitent.
Demain, on continue. Merci à tous. C'était un reportage avec Antoine Chao, Agnès Lebotte pour le montage. Merci à Touche. Pour en finir avec l'État colonial, discours d'investiture présidentielle par Evo Morales, Emma aux éditions L'Esprit Frappeur. Nous serons des millions. Evo Morales et la gauche au pouvoir en Bolivie d'Hervé d'Oalto. À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Guillaume Lacroux, Koye Nguyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission. Assisté de Charlotte Perry, le numéro du répondeur de la base où j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37 réclame.